Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à cette émission Parole au présent au microphone Claude Julien. Je suis ce matin en compagnie de Francine Robert, professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour Francine.
Bonjour Claude.
Et le texte que la liturgie nous propose aujourd'hui, pour la fin de semaine en fait, là, pour être plus précis, vous nous proposez qu'on le fasse en deux parties. En fait, il y a deux parties dans le texte.
Oui, il y a un dialogue entre un homme et Jésus, et ensuite Jésus raconte une parabole. Les deux textes concernent le rapport à l'argent. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on le lise partie par partie. Donc, si vous voulez bien nous lire la première partie.
C'est au chapitre 12 de l'Évangile selon saint Luc. Du milieu de la foule, un homme demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis, s'adressant à la foule, il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car la vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas de ses biens. » Petit commentaire sur cette première partie.
Oui, alors comme on le voit, le vocabulaire est lié à la possession des biens, l'héritage, la cupidité, l'abondance des biens, et la parabole qui suivra nous parle d'un homme riche aussi. Alors, donc ça parle d'argent, c'est souvent un sujet qui nous met mal à l'aise, de combiner argent et réflexion religieuse. L'argent, pas tellement en lui-même, le rapport qu'on entretient avec l'argent, on pense assez rapidement à d'autres passages des évangiles qui nous apparaissent tellement radicaux, de type « vends tous tes biens, donne l'argent aux pauvres », ou encore « nul ne peut adorer deux maîtres, on peut pas servir Dieu et l'argent ». Vous voyez cette espèce de radicalité, d'opposition forte qui est mise entre Dieu et l'argent. C'est si radical qu'on se sent presque déclassé d'avance, hein, comme si ces jouets pourraient pas être à la hauteur de ce qui est demandé là. Donc, ça crée un certain malaise. Ça provoque aussi parfois des réflexes de défense du genre « séparons les questions spirituelles des questions temporelles. L'Évangile, c'est beau comme idéal, mais il faut vivre. » Alors, l'argent, qui est un peu embarrassant, c'est un thème qui préoccupe beaucoup Luc et c'est plus présent dans son évangile que nulle part ailleurs dans tout le Nouveau Testament. Et chez Luc aussi, on trouve cette radicalité dont je viens de parler, mais on doit prendre les textes plus radicaux de Luc dans l'ensemble de ses textes sur l'argent parce qu'il a une perspective plus large, plus englobante. Et à certains égards, je dirais plus réaliste aussi, ce qui escamote pas l'idéal de l'Évangile, mais suffisamment réaliste en tout cas pour qu'on puisse se laisser interpeller, et suffisamment englobante pour qu'on voit que les rapports à l'argent concernent le sens qu'on donne à notre vie. Ça va être plus particulièrement le cas des textes d'aujourd'hui.
C'est ça, ensemble, c'est qu'aujourd'hui, on est mis en présence d'un conflit, finalement.
Hein? Oui.
C'est un homme qui demande à Jésus d'arbitrer un conflit entre lui et son frère.
Oui, s'il n'y avait pas de conflit, il n'y aurait pas besoin d'un tiers pour régler le débat. Donc, il y a quelque chose qui ne s'est pas réglé à l'amiable ici. On demande à quelqu'un de trancher. Peut-être pour situer un peu le contexte, souvent l'héritage dans les sociétés antiques, C'est une propriété foncière, hein, donc des terres, peut-être des bâtiments de ferme, donc de type agricole ou un petit vignoble, ou encore une PME comme l'entreprise de pêcherie familiale des disciples Jacques et Jean, par exemple. Alors, cet héritage est souvent considéré comme un tout, hein, c'est le projet familial et les héritiers vont poursuivre ce projet. Alors, autant que possible, dans l'Ancien Testament, en tout cas, on souhaite qu'il ne soit ni divisé entre les frères. Je parle toujours des frères parce que les sœurs n'héritent pas, on se comprend bien. Alors, on souhaite donc qu'il ne soit ni divisé entre les frères, ni vendu pour séparer l'argent. Alors, c'est une sorte d'appel à la communauté de biens, à une sorte de communauté de biens familiale. Une vie fraternelle, une vie de partage, hein, même si les parts de chacun sont clairement reconnues et l'aîné a droit au double, à double part sur ses frères, même si ces parts-là sont reconnues, on vit du bien familial en commun. Alors, le partage est comme une sorte de mode de vie. Ça aide à comprendre deux aspects dans la réponse de Jésus. D'abord, il répond, au fond, « Je ne suis pas un diviseur. Hein, vous ne m'établirez pas un diviseur. » entre vous. D'ailleurs, Jésus n'est pas un diviseur, au contraire, il invite plutôt au rassemblement. Donc, c'est pas quelqu'un qui divise, il invite à se soucier de l'autre, à partager avec l'autre. Et le partage ici est vu comme une attitude intérieure, hein, le mouvement de quelqu'un vers quelqu'un d'autre. Si c'est un juge qui décide comment les biens vont être partagés, c'est une division des biens, ça. Ça concentre le mot partage sur des choses. C'est plus la personne qui partage. Pour Jésus, c'est pas du partage. Partager, c'est moi qui partage. C'est pas diviser les biens entre nous de façon à m'obliger, finalement. Donc, en refusant, Jésus déplace le problème, hein. Il passe du terrain des choses, qui étaient les biens qui sont en jeu. Il passe de ce terrain-là au terrain des personnes. Il invite indirectement les frères ici à se parler et à tenter de s'entendre, à trouver une forme de partage fraternel, que ça conduise ou non à diviser l'héritage, c'est pas ça qui le préoccupe. C'est essayer de vous mettre d'accord, parce que c'est ça la vie fraternelle. Le deuxième aspect de la réponse de Jésus, gardez-vous de toute cupidité. Cupidité, c'est le mot que la Bible de Jérusalem utilise. Dans la liturgie, on a âpreté au gain, mais le mot cupidité est plus fidèle au grec et est bien plus intéressant. Parce que c'est pas, ça n'a pas le même sens que l'avarice. L'avarice, ou être âpre au gain, c'est vouloir beaucoup d'argent. La cupidité est un mot qui est fait avec un préfixe qui implique plus que, c'est un comparatif. La cupidité, c'est vouloir ce que l'autre a pour avoir plus que lui. C'est vouloir le bien de l'autre ou vouloir plus que l'autre. Donc, c'est l'envie.
L'envie, oui. la convoitise.
Oui, c'est ça. Appliqué, non pas en général, mais ici spécifiquement à l'argent. Alors, en choisissant le mot cupidité dans la réponse de Jésus, on est renvoyé encore à la relation. C'est un mot qui parle d'argent, cupidité et de relation. Il ne parle pas que d'argent comme l'avarice, par exemple. Donc, c'est comme si Jésus disait à l'homme, ton problème, c'est pas la quantité de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, c'est que ta relation à ton frère, elle est défectueuse. Elle est empreinte de cupidité.
Et Paul, dans la deuxième lecture de ce dimanche, va plus loin quand il écrit que la cupidité est une idolâtrie.
Oui.
Ça, c'est la deuxième lecture, extrait de la lettre aux Romains.
Colossiens.
Ah, c'est Colossiens,
oui,
plutôt, excusez.
Oui, Colossiens, si ma mémoire est bonne. Okay. Alors, oui, ça rappelle d'ailleurs, on peut pas servir Dieu et Mammon, on peut pas adorer Dieu et l'argent. Paul fait une liste de choses à ne pas faire, et la cupidité est la dernière, et il est la seule. En passant dans la traduction, les gens se demandent peut-être où la trouver dans la liturgie. Ça a été traduit « appétit de jouissance », ce qui est très général et qui n'a pas vraiment de rapport. C'est cupidité, donc c'est un rapport à l'argent. Et Paul va dire « celle-là, c'est pire que tout le reste, parce que ça, c'est de l'idolâtrie ». Alors, Jésus, ici, ne va pas si loin, il fera bien ailleurs. Il dit pas aux frères « c'est pas bien de vouloir les richesses de ton frère ». Il dit, finalement, élargissons la perspective éthique. La logique de l'argent, qui est une logique d'accumulation, d'en avoir toujours plus, cette logique de l'argent, elle doit être subordonnée à la logique des relations et non l'inverse. C'est comme s'il lui disait, tu es en train de subordonner la logique de la relation avec ton frère à la logique de l'argent. Voyez, quand l'argent et les relations humaines sont mises en jeu dans une même situation, c'est la dynamique de la relation qui dit comment gérer le rapport à l'argent. C'est pas l'argent.
Et non l'inverse.
C'est ça. Ouais. C'est pas l'argent qui nous dit comment gérer nos relations.
Et ça s'oppose à l'adage,
oui,
les bons comptes font les bons amis.
Voilà.
C'est à l'opposé
de
ça.
Donc, on dit le contraire. Les bons comptes font les bons amis. Voilà. Mmh. Les bons argents font les bons amis. Mmh. Il me semble que c'est les bons amis qui devraient faire les bons comptes. Mais,
c'est ça, les bons amis permettent de bien gérer l'argent.
Ou de bien gérer en fonction de la relation et non pas en fonction de la logique de l'argent. Alors, on a une prétendue sagesse dans cet adage que l'Évangile ici remet en question. Il propose une autre sagesse et cette sagesse, elle est éclairée par la dernière partie de la réponse que Jésus a faite. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Ou on pourrait traduire aussi, n'est pas garantie par ses biens. Alors, si on voit avec ce qui vient de se dire à propos des frères, le sens de la vie de ces garçons devrait être enraciné dans la relation aux autres, et entre autres ici la relation familiale, et non pas dans ce qu'on possède. C'est un peu pour ça que, puisque le sens de notre vie est enraciné dans les relations, elles sont prioritaires sur les rapports à l'argent. C'est une des manières de comprendre cette phrase-là. On peut la comprendre avec une deuxième signification si on la lit avec la parabole qui suit, que je vous demanderai de nous lire maintenant.
Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Il se demandait en lui-même, « Que vais-je faire? Je ne sais pas où mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, « Te voilà avec quantité de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, fais la fête. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on te redemande ta vie et ce que tu as préparé, qui l'aura? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu.
Le sens de la réponse de tout à l'heure de Jésus. La vie d'un homme n'est pas garantie par ses biens. Riche ou pauvre, on peut mourir ce soir, demain, ce qui rejoint un peu le psaume, un petit bout du psaume de la liturgie. En l'être humain, c'est fragile comme l'herbe, ça se fane vite. Le psaume conclut, apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Il est bien question de sagesse.
La liturgie de ce dimanche.
Oui, de ce dimanche, okay. Tout à fait.
Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, répétez-nous là, non? L'être humain comme l'herbe au matin.
Oui, et le soir, il est fané, desséché. Okay. Hein? On est fragile comme l'herbe, donc on devrait apprendre la vraie sagesse.
C'est ça, apprends-nous la vraie mesure de nos jours.
Oui, alors on voit bien que ce dont il est question, c'est ce qui fonde la vie, c'est le sens de la vie. Et ici, avec le psaume, ça introduit l'idée même de la fragilité de la vie. La parabole en faisant arriver la mort soudaine, une parabole c'est une histoire inventée, donc Jésus choisit de faire intervenir ici la mort soudaine du riche. En faisant ça, ça dénonce une sorte de fausse promesse de l'argent qui serait de nous protéger contre notre fragilité, contre notre précarité, contre nos limites. C'est une autre manière pour Jésus de dire ce qu'on trouve en Luc 16 aussi, l'argent est trompeur si on se fie sur lui. L'argent, se confier à lui, au sens de mettre sa confiance, remarquez que c'est aussi le vocabulaire de la foi. La foi, c'est la confiance en Dieu. Alors, mettre sa confiance en l'argent, comme le riche est en train de faire dans cette parabole, avec cette espèce de sentiment de sécurité qu'il incarne. Voilà, demain, tout va être beau, je pourrai chanter, je ne me fais plus de soucis. On voit qu'il accumule par peur, finalement, ou par inquiétude, ou par souci du lendemain. On le voit dans la réflexion qu'il se fait. Dit Jésus, mettre cette confiance dans une sorte de confiance comme celle-là dans l'argent, c'est trompeur. Il y a une certaine ironie d'ailleurs, il veut garantir son avenir et il commence par démolir ce qu'il a déjà, des greniers pas assez grands pour en faire d'autres. Alors, la parabole, je dirais, dénonce cette illusion de solidité, de contrôle que l'argent pourrait donner, hein, de contrôler l'avenir ou de contrôler la précarité. Moi, ça me fait réfléchir. Hein, comment mettre de l'argent de côté pour ma retraite, ce que je fais parce que ça me paraît raisonnable, sans que ça devienne pour moi cette mise, cette économie, une sorte de remède parfaitement illusoire face à l'angoisse de la fragilité et de la mort. Je dois, comme tout le monde, comme chacun de nous, travailler sur la façon dont j'envisage, dont je fais place à la mort et à la fragilité dans ma vie. Je dois apprivoiser ça. Et l'argent ne peut pas me dispenser de ce travail-là. S'il m'en dispense en me donnant une illusion de solidité, il devient pour moi menteur. Il devient un faux Dieu qui ne tiendra pas ses promesses de me protéger. Et Jésus ici qualifie d'insensé, de fou, celui qui se fait ainsi piéger par l'argent, non pas l'argent en lui-même, mais l'argent comme supposée protection ou garantie de sa propre vie.
Bien, et il y a l'autre aspect frappant dans la parabole, c'est le fait que l'homme est cet homme-là est seul finalement.
Oui, absolument. Hein. On voit, il parle tout seul, il réfléchit, et lorsqu'il a besoin de parler à quelqu'un, il se parle à lui-même. La parabole est ainsi construite qu'elle ne mentionne aucune relation à qui que ce soit. Une parabole, c'est inventé. Donc, c'est un exemple, comme il y en a souvent dans l'Antiquité, d'un modèle à ne pas suivre. Alors, cet homme est présenté sans relation à personne. Sa seule relation, c'est à ses terres, à ses récoltes, à ses biens, à ce qu'il possède. Il fait ses projets d'avenir sans référer non plus à d'autres personnes. Il se définit lui-même dans le présent et dans le futur uniquement par ce qu'il possède. On se demande d'ailleurs avec qui il va fêter. Mange, bois et faisons la fête, c'est une traduction plus juste de ce qu'il se dit. C'est un peu triste finalement. Alors, si on met cette solitude et ce repli sur soi en lien avec le récit précédent sur l'héritage des deux frères, et je dirais qu'on peut faire ce lien puisque c'est déjà dans la parabole, Dieu dit à cet homme, ce que tu as préparé, qui l'aura? Qui aurait normalement ce qu'il a préparé? Bien sûr, ses fils, s'il mourait. Je dis pas que les deux fils plus hauts sont les fils de cet homme, bien sûr, mais ils sont symboliquement présents dans le contexte de la parabole. Ces deux fils qui, justement, vont se battre pour diviser ce que l'homme a ramassé. Hein.
Et ça rejoint notre première lecture.
Oui, tout à fait. Hein,
Coëlette, de la liturgie de ce dimanche, qui est au deuxième chapitre du livre du Coëlette.
Ouais.
Est-ce que j'ai le temps d'en faire rapidement une... Oui, bon, voilà, tout est vanité. Un homme a travaillé avec sagesse, savoir et succès, et il donne son bien à celui qui n'a pas travaillé. Cela aussi est vanité, car que reste-t-il à l'homme de toute sa peine et de tous ses efforts sous le soleil?
Ouais. On voit bien là un certain cynisme, si je peux me permettre. Chez Coëlette, on travaille, puis finalement on meurt quand même. Tout ça pour rien. C'est un cynisme qu'on ne va pas trouver dans l'Évangile, ni dans le Nouveau Testament d'ailleurs. Et c'est un cynisme, dans ce cas-ci en tout cas, qui, je crois, ne rejoint pas non plus notre expérience. Parce que pour la plupart des gens, en tout cas, le fait de pouvoir léguer des biens à leurs enfants, ça règle pas leurs problèmes face à l'idée qu'ils vont mourir, mais ça donne du sens à ces biens-là. De dire, ça je vais laisser à mes enfants, que ce soit de l'argent ou une maison ou autre chose, l'argent qu'on peut inscrire dans des relations interpersonnelles, pour nous, ça prend un surplus de sens. C'est ça, je dirais, c'est vrai dans la pratique populaire et dans une sagesse populaire qui est la nôtre aussi. Alors, l'homme ici qui est inventé par la parabole, qui est complètement fermé sur lui-même et sur ses biens, n'entre pas finalement dans cette sagesse où ses biens, il pourrait les envisager dans l'avenir pour aussi être partagé avec ses enfants. Il envisage de rien donner. Le don est complètement absent de sa réflexion. Et puisque même ses enfants, puisqu'il mentionne son futur, il devrait être là, son omis, ça veut dire que sa propre fragilité et sa mort sont disparus aussi de sa réflexion, sont disparus de son champ de conscience, comme cachés par l'illusion que l'abondance de ses biens va garantir son avenir et sa vie.
Et ça rejoint une plaisanterie connue dans l'Antiquité grecque. Le comble de l'avarice, c'est l'homme qui, dans son testament, se désigne lui-même comme héritier.
Oui, elle est bonne celle-là. C'est le comble de l'ironie. Là, même Coëlette n'allait pas si loin. Alors, au fond, l'attitude des frères du récit précédent, qui présente la même fermeture à l'autre, il n'y a pas de don, il n'y a pas de partage, c'est pas ses fils, mais on reconnaît un air de famille, d'une certaine manière, la même résistance au partage chez eux comme chez lui. Je trouvais un commentaire de Basile de Césarée, qui est un des pères de l'Église, sur ce texte, à la question justement « Que ferais-je ?» Basile de Césarée dit « Comment que ferais-je ? » La réponse était simple. « Avec ses surplus, aurait dû se dire l'homme, je vais rassasier les affamés, je vais inviter des pauvres. » Basile dit « Tu aurais dû t'inquiéter de à qui donner plutôt de comment garder. »
Et ça, c'était des choses qu'on a un petit peu de temps, là. On peut s'en parler que les baby-boomers, n'est-ce pas, boomers, qui ont pas mal d'argent, se posent la question, il y en a qui, par exemple, qui n'ont pas d'enfants, et qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai reçu de mes parents, finalement, et se posent toute la question des différents organismes, à qui, finalement, ça pourrait servir.
Oui. La présence même de ces organismes-là dans l'esprit de la personne implique la conscience du don qui est possible, qui est déjà énorme. Il ne s'agit pas de vendre tous ses biens puis de les donner aux pauvres nécessairement, mais déjà la participation au don social, la collaboration, le bénévolat sont des... là, je triche un peu. D'ailleurs, je déborde sur une réflexion de Daniel Marguerat que j'ai lue ce matin, que je trouvais intéressante aussi. Alors, on pourrait dire, pour ramasser un peu la réflexion sur ces deux textes-là, on donne ici la primauté aux relations humaines comme étant la règle du rapport à l'argent. Et ça éclaire bien la remarque finale de Jésus, s'enrichir en Dieu plutôt que d'accumuler pour soi-même. S'enrichir en Dieu ici, c'est pas avoir beaucoup d'indulgences, acheter des indulgences, qui est une vieille formule, mais c'est pas non plus gagner des mérites pour aller au ciel. C'est inscrire sa vie dans la dynamique du règne de Dieu. S'enrichir en Dieu, c'est vivre dans la dynamique du règne de Dieu. Et quelle est cette dynamique-là? C'est une dynamique d'ouverture à l'autre, de compassion, d'accueil, de partage. Donc, c'est une dynamique relationnelle dans laquelle l'argent trouve sa place, soumis à ses impératifs d'ouverture, d'accueil, de partage. Et c'est l'horizon du texte suivant chez Luc que nous n'allons pas commenter cette année, mais il est très connu. Ne vous faites pas souci demain de ce que vous mangerez, ce dont vous vous vêtirez. Et ça pose toujours beaucoup de questions, ce texte, donc je dois pas m'inquiéter du lendemain. Luc termine en disant « Cherchez le règne de Dieu, tout cela vous sera donné. » Pourquoi on peut être sûr de ça? Parce qu'un groupe ou un modèle relationnel fondé sur le partage, sur l'accueil, sur l'ouverture et le don, me mettrait dans un réseau de personnes où je pourrais toujours compter sur quelqu'un d'autre. Et donc, je n'aurais à m'inquiéter de rien.
Bien. Merci, Francine Robert. Je rappelle, Francine Robert, donc, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Au microphone, Claude Julien. Je vous souhaite une bonne fin de semaine à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.